Donc on va écouter Denis Mellier. Denis va nous parler de l'arsenal et de méthodologie. Ouais. Méthodologie, comment regarder ces documents, que peut-on y puiser, comment les analyser, etc. etc.
Merci Luc. Bon oui, alors je suis Denis Mellier, je suis professeur à l'Université de Poitiers où j'enseigne la littérature comparée et le cinéma. Et j'interviens aussi dans le cadre du Master BD à Angoulême, allez-y. Voilà, alors le titre, le mot méthodologie pourrait sembler un peu rébarbatif. En fait, c'est un projet qui est en cours, et c'est plutôt des pistes et ce qu'on est en train, j'espère, de pouvoir réaliser avec la Fanzinothèque, Marie, Virginie et le laboratoire Forel de l'Université de Poitiers, et essayer de voir ce qu'on peut faire finalement avec cette archive assez extraordinaire dont Marie a parlé tout à l'heure et dont vous avez des exemples qui sont sur le mur. Donc je ne reviens pas sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'était l'arsenal, sa durée de vie, le nombre de numéros. Effectivement, si vous allez sur le site de la Fanzinothèque, vous pouvez télécharger et voir les 225 à peu près, il y a quelques trous dans la collection. Mais vous pouvez vous faire une idée de ce qu'a été 20 ans de newsletter consacré à l'activité musicale en région, avec une extension de la région qui se situe dans les 200 km dont Marie parlait, c'est-à-dire le rayon de mouvement qu'un fan de musique peut faire pour voir un concert, qui explique effectivement ce Poitou, ce Grand Ouest étendu, puisqu'on y trouve des informations effectivement aussi bien sur Tours que Périgueux dans la newsletter. Alors la question c'est de savoir ben, finalement qu'en faire. On a là quelque chose qui est numérisé, comment l'exploiter, quel type de recherche peut-on faire autour de ce type de newsletter. La numérisation a été faite et on est donc en présence d'un matériau riche qui court sur 20 ans. Marie l'a rappelé tout à l'heure, chaque newsletter est composé recto verso d'une suite d'informations qui est relative à la scène rock et punk de la région. On y trouve des informations sur les salles de concert, les lieux où peuvent se produire des artistes, les disquaires indépendants, et puis tout un tas d'autres informations relatives à, disons, une définition large de la culture punk, pas simplement strictement centré sur la seule musique. Bon, si de façon générale, la maquette semble constante durant 20 ans, une feuille au même format, recto verso, du noir et blanc, des annonces par pavé, on note pourtant à l'examen de l'ensemble des numéros qu'il y a à certains moments des expérimentations, des variations, des innovations, et qu'on est en présence de quelque chose qui inscrit à la fois une grande continuité graphique, une forme artistique stabilisée, mais en même temps une expression ouverte. On pourrait le montrer par exemple avec les choix des caractères, du lettrage, ainsi que des formes de rédaction, des jeux de mots, des abréviations, des sigles, des syncopes, des transformations orthographiques de mots, l'utilisation systématique du K pour remplacer le C dans, comme on le trouve souvent, etc. Avec des moments ou des pavés à certaines époques de la newsletter qui s'ouvrent vers des formes d'arguments, je dirais, davantage développées, voire carrément rédigées, hein, sans bien sûr avoir la possibilité que le fanzine a de développer une véritable position de rédaction, de chronique, etc. Donc c'est un matériau qui, si on se propose de faire l'histoire locale systématique de la scène punk et rock à Poitiers ou dans la Vienne, c'est un matériau absolument essentiel, puisqu'on va y trouver l'ensemble des acteurs, l'ensemble des lieux et les formes de médiation qui existent et disponibles pour les musiciens et le public. Le problème qui se pose devant un tel matériel, c'est quel type d'histoire il s'agit exactement d'écrire. Est-ce que c'est une liste des faits, un dictionnaire des acteurs, une recension des concerts ou des lieux? Quel projet exactement mettre en œuvre pour diriger l'exploitation de cette somme d'informations? Pour le dire autrement, quelles questions poser à une telle archive qui permette d'informer et d'organiser l'histoire que l'on veut entreprendre? À partir de quel point de vue va-t-on faire une histoire? L'historien Eden White dit qu'il n'y a pas d'histoire sans philosophie de l'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récit possible sans point de vue qui l'oriente. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à raconter quand on a un tel matériau? À partir de ce questionnement sur la nature des informations réunies dans les 225 exemplaires d'Arsenal, se pose alors un autre problème, qui est tout autant un problème de méthode qu'un problème de moyens. Comment exploiter concrètement une somme aussi gigantesque d'informations ? Il n'y a qu'à prendre un seul exemplaire pour voir le nombre considérable d'informations qui figurent en matière de groupes locaux, mais aussi nationaux, voire internationaux, de lieux de concert. C'est pas trois lieux de concert à Poitiers que recense Arsenal, c'est tous les lieux possibles sur la Vienne. Et on l'a dit tout à l'heure, j'ai été, n'étant pas de la région à l'origine, j'ai été extrêmement surpris de voir qu'il y a une activité de concert et de spectacle qui se répand sur l'ensemble de la région, y compris dans de très petites villes ou de gros villages. Et comparativement, par exemple, à la Dordogne, que je connais parce qu'à l'époque où j'aurais eu l'âge d'être punk, c'était en Dordogne que je vivais, il n'y avait pas d'équivalent. Les scènes de concert, c'était Sainte-Foy-la-Grande, Bergerac et Périgueux, terminées. Et c'était très difficile, j'ai pas de souvenir d'avoir jamais entendu parler de concert à Neuvic, à Saint-Astier, ou cette manière-là, ou Mussidan. Alors que dans la Vienne, visiblement, la scène est extrêmement vivante, et c'est, en quelques exemplaires, on voit très bien que si on devait faire une géographie des salles et une recension des lieux, on aurait effectivement un matériau très très riche. Donc un seul exemplaire d'Arsenal montre la richesse extraordinaire des informations. Avec les lieux de concert, aux lieux de concert, pardon, s'ajoutent les producteurs, les annonces d'albums, je veux dire des groupes locaux, éventuellement des foires, des festivals ou des journées consacrées à la musique, mais aussi plus largement à d'autres formes d'expression de la culture punk, la bande dessinée, le fanzine, voire les ciné-concerts hein, qui apparaissent recensés également. Donc, avant de se demander comment chercher, j'aimerais tracer quelques pistes pour réfléchir sur ce que l'on peut vouloir chercher dans un tel matériau. D'abord, je tombe sur un premier problème qui m'a surpris et auquel j'avais jamais vraiment pensé. C'est finalement une newsletter, si ça constitue une archive tout à fait pertinente de données factuelles, c'est sur le principe très éloigné d'un fanzine. C'est même très étonnant qu'une newsletter soit rapprochée du fanzine, puisque précisément la newsletter n'implique pas qu'il y ait de rédaction, ou qu'il y ait d'espace de rédaction. En ce sens-là, la newsletter est-elle une forme ? A-t-elle une forme ? Si sa fonction est assez claire, donner des informations, recenser, transmettre de la donnée brute, est-ce qu'on peut considérer la newsletter comme une forme ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Comment on peut s'en saisir pour, la pratiquer sur un plan graphique, artistique et éventuellement, dans ses marges, y introduire des positions, une écriture, ce qui est le cas dans certains moments d'Arsenal. Peut-on analyser une archive qui correspond à une forme répertoriée qui existe sur le même sujet, le rock, le punk ou dans d'autres lieux, d'autres villes, d'autres newsletters, sans s'interroger sur le média lui-même, sur la forme, sur le genre que constitue cette façon très spécifique de faire circuler de l'information. Je me suis demandé s'il y avait des travaux universitaires qui portaient sur la newsletter comme forme. Je n'en ai pas trouvé pour le moment. Les seuls discours, qui expliquent ce que sont les newsletters, on les trouve en marketing, en théorie de la communication et en management. C'est-à-dire la newsletter comme vecteur d'information afin de pouvoir diffuser et faire acheter le produit. Alors, c'est assez intéressant de voir que dans le projet de newsletter type Arsenal ou type culture subalterne ou contre-culture, ce qui est dans un spectre, du geste marketing, un outil de communication marchand, est à l'autre bout du spectre un outil de propagation d'une contre-culture qui se situe diamétralement à l'opposé du spectre idéologique. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que la newsletter type Arsenal ou type de son emploi dans les contre-cultures, pour parler vite, est un outil finalement qui subvertit, qui détourne, qui prend à son propre piège une forme de communication qui, par ailleurs, est d'une toute autre nature. J'ai pris contact récemment avec deux chercheurs, des spécialistes de culture populaire et qui ont travaillé sur les médias culture au 19e et 20e siècle, pour leur demander si, à leur connaissance, il y avait des travaux de type scientifique, académique, universitaire, qui portaient sur la forme de la newsletter, notamment ceux qui travaillent sur l'histoire de la publicité. Est-ce qu'ils ont croisé des approches de ce type-là ? J'attends leur réponse, mais ça c'est une piste en tout cas.
prendre, j'allais dire, sérieusement la newsletter comme forme. Hein. Bien entendu, forme qui devra être différenciée très précisément du fanzine. À partir d'une caractérisation générale de la newsletter, des fonctions qu'on lui prête, et de l'objet qui est le sien, il est alors possible de décrire la collection d'Arsenal selon un degré de conformité ou alors un degré d'écart par rapport à ce qu'on attend d'une newsletter. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être commencer d'abord par faire l'histoire d'Arsenal lui-même pendant la période des 20 ans et voir si effectivement il y a des moments hein, où le ton, le type d'information, la nature de la lettre se modifie, évolue. Alors il faut effectivement être extrêmement patient parce que j'ai pas lu les 225 fascicules à ce newsletter à ce jour, j'ai fait des coupes. Hein, j'en ai pris 4-5 tous les ans, hein, ou tous les 5 ans, et j'ai regardé. Et bien effectivement, sur le détail, on trouve des modifications graphiques, des modifications de mise en page, des modifications, puis des retours à l'antérieur. Alors pourquoi ce numéro? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un nouveau collaborateur? Est-ce que c'est une tentative? Ça, seuls les acteurs peuvent nous expliquer, travailler et dire à quel moment, effectivement, dans l'histoire interne de la newsletter, telle ou telle proposition est faite. Il y a par exemple un moment où, visiblement, la question de la propagation du sida est une véritable question, un véritable enjeu, et on voit se développer des encarts, des textes, une démarche militante hein, qui va accompagner pendant un certain nombre de semaines, enfin de mois, pardon, qui va accompagner la pure information brute donnée qui est là. Donc, mesurer la conformité ou l'écart d'Arsenal relativement à une forme idéale, la newsletter, à un paysage national de newsletter, il y en a d'autres dans d'autres régions. Donc est-ce que Arsenal a sa spécificité ou est-ce que finalement Arsenal est une newsletter parmi les autres? Donc faire une histoire qui peut être une histoire par rapport à la forme, par rapport à une production nationale et bien entendu par rapport à son évolution ou à sa fidélité par rapport à la charte graphique et formelle qu'elle s'est donnée et que l'on peut constater très rapidement à l'œil nu, hein, noir et blanc, encadré, etc. Donc il y a une histoire qui est possible à faire, c'est faire l'histoire visuelle du support, sa forme, son graphisme, son rapport texte et image, hein, qui là aussi est très intéressant. Tantôt les pavés qui informent sont posés sur l'image, tantôt ils sont disposés de façon à ce que quelque chose de l'image qui constitue le fond surgisse entre les pavés. Donc il y a un véritable dispositif qui est mis en place, et là il varie aussi selon les moments, hein, et donc selon la conception graphique qui est faite. Bref, est-ce que cette newsletter peut être envisagée de manière, Solveig Luc le disait tout à l'heure, de manière strictement esthétique, c'est-à-dire y a-t-il une poétique visuelle, graphique, textuelle de la newsletter? Est-ce qu'on est devant un objet artistique? Et si oui, comment le travailler? Cette histoire, elle peut mettre l'accent donc sur la dimension visuelle, mais on ne peut pas pour autant la séparer radicalement d'une réflexion sur l'écriture même. Alors, il suffit de lire in extenso une sélection de 4 à 5 exemplaires par an sur 20 ans pour voir qu'Arsenal ne se contente pas de transmettre de l'information brute. Mais la newsletter constitue un vecteur d'un discours, j'allais dire... je ne sais pas, Marie me corrigera ou elle modulera ma formule, mais en tout cas d'un discours qui est, si ce n'est militant, en tout cas d'un discours qui lui-même s'inscrit dans un geste hein, qui relève d'une culture punk. En ce sens, Arsenal est un média, voire un agent, hein, et dans certains moments, il manifeste une conscience réflexive de ce qu'il est en train de faire et désigne véritablement le mode de communication qu'il est en train de faire circuler. Et donc, prend part finalement à la scène qu'il est en train de décrire. En ce sens, la question de la position d'Arsenal relativement à la newsletter peut se poser un petit peu autrement. Si on fait l'hypothèse d'une spécificité d'Arsenal, alors il faut voir dans quel type d'écologie on se place, j'entends par quel type d'écologie éditoriale, hein, relativement aux autres newsletters, éventuellement sur le plan j'allais dire national, voire européen. Bref, on peut, à partir d'une description méticuleuse de la newsletter, pouvoir faire dialoguer, comme le projet PIND le propose, les plans du local et du national, voire de l'international. J'entends par là une comparaison avec des fanzines, des newsletters équivalentes sur le plan européen. La question s'étend un peu autrement. Quels sont les points de contact entre l'expression très limitée, en volume, en place, une feuille recto-verso, de la newsletter, et le format beaucoup plus confortable sur le plan de l'expression, qui est celui du fanzine ou de la revue, et dont Marie vient de nous parler? Est-ce que les rédacteurs de la newsletter sont dans une position, j'allais dire, purement d'information factuelle, ou est-ce que ce mécanisme d'expression dont a parlé si souvent aujourd'hui Marie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette volonté de se saisir d'un média pour s'exprimer, est-ce que la newsletter est un moyen d'expression ou un simple moyen de communication? Bien entendu, la théorie de la communication répond à ma question, c'est bien entendu les deux, par définition. Donc, quelle est la partie d'expression qui est en jeu dans la newsletter? C'est donc un éventail élargi de pratiques médiatiques et éditoriales qui accompagnent la newsletter, et il faudrait peut-être réfléchir effectivement à la façon dont nous travaillons un tel objet relativement à d'autres supports que sont des supports parallèles, des supports qui s'articulent avec la newsletter, mais justement quelles sont les interactions qui existent entre flyers, affiches, fanzines, dazibao, notes de pochette, artwork, etc. Faire une histoire finalement des modes de communication punk ou de la culture, des cultures de masse populaire, appelons-les comme on veut, passerait précisément par une réflexion sur ces articulations, sur cette tension ou cette complémentarité de ces différentes formes qui sont à la fois textuel et graphique. Ici, alors, il semble très insuffisant de se contenter du simple relevé pour préférer, je crois, une approche qui devrait être plus près des textes, plus près des réalisations, et une approche qui comparerait les moyens, les effets et les normes, et les formes, pardon, des différents formats que je viens d'évoquer rapidement. On peut donc commencer par le relevé, par la description, par la typologie, dater les choses et, à partir de là, se demander ce dont on cherche à faire l'histoire afin de s'engager dans une interprétation du discours qu'a contribué à tenir l'arsenal à travers la forme de promotion de la culture punk à laquelle il s'est livré dans la région. L'amplitude de cette histoire peut bien sûr varier. On peut la faire porter sur l'histoire longue, la diachronie sur 20 ans, sur 10 ans, mais on peut préférer aussi une étude synchronique sur une période très restreinte, en interrogeant une ville, une aire, une région, un groupe sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tout dépend du projet avec lequel on va interroger l'archive. Dès lors, il s'agit de construire un programme de recherche avec les acteurs de cette histoire, dont la connaissance du terrain et de l'histoire qu'ils ont eux-mêmes vécue est absolument essentielle. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle nous dirait la vérité sur ce qui s'est passé, c'est le paradoxe du témoin dont on a encore eu tout à l'heure un exemple dans l'échange, et qui fait que, bien entendu, le chercheur ne peut pas uniquement se tenir à la vérité subjective d'un récit, mais doit plutôt mettre en contradiction et en tension la multiplication. Les nombreux récits qui sont faits d'un même événement. Donc c'est pas tellement ça, c'est qu'on a besoin finalement des acteurs pour nous désigner à l'intérieur de la somme considérable d'informations quels sont les projets ou quelles sont les informations qu'il faut aller chercher, sauf à avoir le projet un peu fou qui consisterait à indexer la moindre information portée dans la newsletter. La masse des données est donc très forte, très grande, et il faut donc que l'acteur permette de chercher celle de la plus grande qui aura la plus grande pertinence pour un projet de recherche. Quelques-unes comme ça, qui sont que des propositions, il y en a tellement d'autres. Constituer une liste exhaustive des groupes régionaux, constituer une liste exhaustive des sites de production de la musique. Mais attention, ce n'est pas tous les mêmes. Salles de répétition, studios, salles de concert. Faire une histoire et une géographie des structures de concert. Ça a déjà été fait, d'ailleurs, pour partie, dans d'autres régions, dans la publication qui est là-bas. Faire une analyse historique quantitative. Le débat après 78, le punk est mort, etc., c'est pas un débat qui est propre au punk. C'est un débat qui est propre à toute émergence de toute scène musicale, qui, bien entendu, a un temps d'émergence, puis un temps d'hégémonie, et enfin un temps de déclin. C'est un modèle assez classique en sociologie, c'est Raymond Williams qui explique ça très bien. Le déclin ne voulant pas dire que la forme musicale disparaît, mais qu'elle reste de manière résiduelle. C'est-à-dire qu'elle continue à exister, mais non plus dans sa période de domination hégémonique. Alors après, les débats sont sans fin pour savoir quelle est la ligne de partage, à quelle date, à quel moment. Si on fait une histoire quantitative du punk en région, bah effectivement, on peut se demander quelle est la phase d'émergence, combien de temps elle dure, à quel moment elle devient la forme de musique dominante dans une communauté, et à quel moment elle perdure sous une forme résiduelle et non plus dominante, etc. Donc voilà un projet, par exemple, très concret, dont Arsenal est l'outil absolument essentiel. Et il est même bien plus intéressant que le fanzine, parce que précisément le fanzine prend une position subjective qui n'est pas celle qui nous occupe, mais qui est une position quantitative, à savoir qu'à partir du moment où le nombre de concerts décline en région, eh bien la position d'hégémonie est en train de disparaître. Mais le fait qu'il décline ne signifie pas qu'il disparaisse. Au contraire, on voit des poches dans lesquelles, effectivement, la présence de telle ou telle activité musicale continue. On peut aussi, par exemple, avoir des périodisations multiples qui sont déterminées, par exemple, par ce que les acteurs nous disent de l'importance de tel ou tel groupe localement. Comment un groupe, par exemple, a été à l'origine d'une circulation musicale plus ou moins intense, ou comment il a essaimé, rayonné dans d'autres groupes. Si on avait eu le temps de réaliser des relevés significatifs sur un nombre suffisant d'exemplaires, on aurait pu aujourd'hui présenter quelque chose comme trois projets qui peuvent être tout à fait exemplaires de ce qu'on peut faire avec Arsenal. Par exemple, faire l'histoire d'un groupe choisi selon des critères qui seraient à définir. La longévité, la réputation, la qualité reconnue par leur pair. On sait par exemple, que dans certaines villes, tel ou tel groupe a figure de groupe historique et qu'il a à lui tout seul animé, mené une scène. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas selon les types de musique ? Qu'est-ce que ça représente ? Là, c'est également l'expertise des acteurs qui peut nous dire quoi chercher, quelle trajectoire repérer. Si ce groupe a une dimension exemplaire ou significative. On peut par exemple faire l'histoire d'une scène dans une ville spécifique. Poitiers, bien sûr, mais peut-être que des villes de moindre importance dans la région sont tout aussi intéressantes. J'ai été, bien sûr, extrêmement surpris, je le disais tout à l'heure, en dépouillant au hasard, des exemplaires, de découvrir, par exemple, que Bressuire a très longtemps eu une activité de concert très systématique, avec des choses qui s'y passaient sur une base très régulière. J'aurais pas été surpris que Niort, par exemple, mais chercher localement, sortir de l'idée de la grande ville régionale pour voir cette manière d'essaimer. Voilà, par exemple, un projet très concret dont Arsenal nous donne les moyens, puisqu'il a effectivement relevé l'ensemble des concerts qui se déroulaient dans cette région. Faire l'histoire d'une période, on a discuté tout à l'heure de 78, 76, 80, par exemple. Voir si les périodisations de la presse nationale sont pertinentes au regard de la réalité des pratiques musicales et culturelles dans les régions. Faire l'histoire, par exemple, d'un lieu. Alors, bien sûr, on pense au confort moderne, mais on pourrait penser également à des structures de répétition ou d'autres. Tous ces projets, et bien d'autres possibles, peuvent être faits à partir des informations qu'on va tirer de l'archive. Mais ils dépendent tous, avant qu'on en arrive là, à la possibilité de dépouiller, de classifier et d'exploiter. Et c'est là où le bât blesse, c'est que le faire à la main est un travail de titan. Donc, la numérisation permet aujourd'hui de lancer le projet entre la Fanzinothèque, PIND et le laboratoire Forel, d'un passage à une étape supplémentaire qui est celle de l'indexation. C'est-à-dire de pouvoir effectivement rentrer à partir de la numérisation, des clés d'index qui nous permettront, une fois qu'on saura quoi chercher et selon quel projet, à l'intérieur de cette masse documentaire considérable, de lancer les questions qui nous intéressent relativement à tel ou tel projet de recherche. Cartographie, lieu, groupe, fréquence, diminution de la fréquence des concerts pendant telle ou telle période, etc. Et là, de faire une histoire qui, soit n'est que quantitative, soit au contraire, est le début d'une réflexion fine sur des questions qu'évoquaient Luc et Solveig tout à l'heure et sur lesquelles je voudrais conclure, qui sont plutôt des questions qui relèvent de l'esthétique et de la façon dont la musique ou les formes de spectacle sont pratiquées. Parce que finalement, le risque de la méthode, que je l'ai des questions méthodologiques que je suis en train de soulever, c'est bien sûr de ne constituer que des listes, des chiffres et des graphes, et d'avoir une lecture qui ne serait finalement qu'une interprétation strictement sociologique ou économique, ou en matière de politique culturelle, de ces pratiques. Or, on a bien vu tout à l'heure que la discussion, pendant que la présentation de Luc et Solveig, a immédiatement conduit la réflexion sur l'interprétation de quoi ? De l'éthos punk, de la philosophie punk, ou de la définition de ce qu'est ou de ce que n'est pas une conception légitime du punk. Et il est extrêmement intéressant de se demander, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces informations que je vais effectivement glaner, que je vais constituer ? Et c'est pour ça que je voudrais terminer sur quelques idées, parce qu'il me semble que le flyer pose un problème encore plus radical que le fanzine à la culture punk et à la pensée du No Future dont on parlait tout à l'heure. S'il y a vraiment quelque chose qui ne devrait pas s'être constitué en archive, c'est véritablement le flyer. C'est le flyer ou la newsletter. Ça ne sert absolument à rien d'autre qu'à porter l'information ponctuelle à ceux qui vont la consommer. C'est un moyen rapide et activiste d'emmener les gens au spectacle ou de les faire participer à une communauté. Or, s'il y a bien une réflexion qui occupe absolument toutes les études sur la musique populaire, c'est bien entendu la contradiction qui est notée depuis le début des écrits sur le rock dans les années 50 et 60, entre quelque chose qui est supposé être juvénile, éphémère et qui se consomme dans l'instant, et qui est en train de perdurer, de s'institutionnaliser et de durer dans l'archive. Donc s'il y a bien quelque chose qui est une pure contradiction, un double bind, si vous voulez, une injonction contradictoire, c'est à la fois quelque chose qui est fait par définition pour être précaire et éphémère, le flyer, la newsletter, et qui devient pourtant, par le geste que nous sommes en train de faire, une archive. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont conçues dès le départ comme étant des archives, des actes notariés. Il y a des choses qui sont des archives que l'on détruit au bout d'un moment parce qu'on n'en a plus besoin. Et puis il y a des choses que nous constituons en archives. Alors, si on rajoute ce geste, c'est-à-dire de la constitution de l'archive d'un objet qui, par définition, était éphémère et précaire, des conditions de réalisation très simples, et qu'on le croise avec l'autre question qui, tout à l'heure, a encore fait débat, c'est-à-dire une forme culturelle et une expression du rock qui s'est conçue tout de suite dans un rapport conflictuel au futur et à la durée, c'est-à-dire ne pas vouloir laisser d'inscription dans le temps, et on voit bien les enjeux qu'il y a à discuter soit du punk version nihiliste, no future, je n'ai pas de futur moi et je ne veux pas en avoir dans ce monde, c'est-à-dire la lecture nihiliste du punk, versus une lecture activiste et progressiste, c'est les autres qui n'en ont pas mais moi je vais en construire un alternatif. On voit bien que l'archive que nous sommes en train de faire nous dit directement le rapport au temps et à l'âge, à la durée, à l'éphémère et au précaire, et nous travaillons sur un objet que nous institutionnalisons, que nous transformons en archive, parce que nous sommes en train de composer une histoire dont nous avons besoin. Et que précisément nous sommes en train de le faire avec un texte, un recto verso de papier, qui n'avait pas d'autre fonction que d'être un pur geste de communication. Ce qui n'est pas le cas du fanzine. Hein, ce qui n'est pas le cas du fanzine, qui peut se penser par rapport à d'autres types de textes, journaux, recueils de poèmes, revues, etc. Mais le flyer, c'est pour ça que j'ai commencé en essayant de réfléchir sur des formes comme le flyer ou la newsletter, qui sont justement des formes pour lesquelles il n'y a pas de poétique, il n'y a pas de description formelle, parce que d'une certaine manière, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Ils sont d'abord des formes fonctionnelles. Or, regardez-les, ce sont aussi des objets artistiques. Donc, il va falloir faire ce travail de réflexion sur la forme de la newsletter, de poétique de la newsletter, de réflexion esthétique sur la newsletter, et à ces conditions-là, je pense qu'on évitera d'exploiter cette archive juste pour avoir des données quantitatives chiffrées, des tableaux ou des cartes plus ou moins précises, qui sont une manière de faire de l'histoire, mais pas la seule. Hein ? Et à ce titre-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est véritablement quel type d'histoire voulons-nous faire avec les données qui nous sont présentées ? Et si je peux conclure sur quelque chose, c'est très intéressant de voir que cette réflexion que nous oblige à faire cet objet précaire et éphémère qu'est la newsletter nous conduit, et la discussion qui est montée d'elle-même tout à l'heure, nous conduit à quelque chose qui est une réflexion sur les rapports entre les formes d'inscription et de passion juvénile que l'on peut avoir pour la musique et la durée de cette passion et la persistance de cette passion dans le vieillissement. Plus je réfléchis à l'enseignement du rapport du rock, comment réfléchir sur le rock, et plus j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'autre question que celle du vieillissement. Aging with the rock. C'est ça le problème. C'était pas prévu pour durer cette affaire. I hope I die before get old, chanté en 64 Roger Daltrey, il le chante toujours aujourd'hui à plus de 70 ans. Et c'est toujours le même problème. Et cette fois-ci, tout à l'heure, Luc et Solveig ont très clairement mis le doigt sur la difficulté que les acteurs avaient à penser cette question, ou ce que ça requérait d'exigeant pour eux d'avoir à la penser. Je rappelle qu'un des premiers grands écrivains sur le rock, Nick Cohn, arrête d'écrire à 21 ans, comme Rimbaud, dans un magnifique geste où il dit « j'arrête parce que je ne veux pas continuer à écrire sur le rock au-delà de cet âge-là ». Et donc il passe à autre chose, il devient romancier. Il n'a plus jamais écrit une ligne sur le rock. Prescience absolue du paradoxe dans lequel nous nous sommes placés, nous, en venant faire l'histoire de quelque chose qui ne devait pas en avoir. Ou en venant faire l'histoire, précisément, de quelque chose qui s'est conçu à un moment dans un rapport critique violent à la temporalité et au futur. Donc je crois que si on le voit bien sur les disques, si on le voit bien sur les pochettes de disques, sur les textes, sur les objets, la précarité d'un objet comme une newsletter est paradoxalement encore plus vif pour nous, pour penser ce problème-là. Voilà, c'est pour ça que, plus que le fanzine, paradoxalement, je me suis dit au début, mais pourquoi travailler ? Enfin, oui, c'est intéressant, on va dépouiller de l'archive. Mais en fait, je trouve que c'est encore plus intéressant de travailler sur cet objet-là, parce qu'il résume, par son statut lui-même, un certain nombre de contradictions, de problèmes, de paradoxes, qui sont ceux que nous affrontons dans ce type de réflexion sur ces objets-là. Voilà, c'est un objet pauvre, au sens où on l'emploie en bande dessinée quand on parle de style pauvre, de graphisme pauvre. C'est un objet pauvre, et c'est précisément pour ça qu'il est si compliqué et si intéressant à manier, et que si on arrive à faire ce projet d'indexation, qui suppose effectivement quelqu'un qui peut le faire avec les acteurs, comme je vous le disais, on risque d'avoir vraiment un très très beau chantier dans les années qui viennent de dépouillement et d'avoir là un matériau important pour le projet PIND, parce que là, effectivement, on va pouvoir poser des questions, dresser des pistes et éventuellement apporter des réponses. Voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est encore une fois, on est au stade du projet, du démarrage, on va s'en occuper. Voilà. Merci.
Du coup, on va passer juste aux questions en attendant d'arriver à Calais parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard. Donc, si vous avez des questions à Denis, c'est le moment.
Juste merci pour ton exposé sur comment on pourrait exploiter effectivement cette nouvelle base de données si on arrive à numériser. C'était passionnant. Mais est-ce que toi, tu as eu le temps d'avoir des renseignements complémentaires, je comprends bien que la masse de newsletters à étudier est conséquente sur le nombre d'exemplaires diffusés et aussi, ça a été dit peut-être, mais j'ai pas écouté, et surtout pourquoi elle s'arrête en fait, peut-être Marie l'a dit. Elle va le dire ? Ok.
À l'ordinateur, c'est-à-dire le moment où le public va chercher l'information, où elle se trouve sur le net. Et donc, je pense que la newsletter va probablement affronter les mêmes types de problèmes que les fanzines en webzine. Et donc, c'est un changement, une mutation médiatique qui se fait à ce moment-là. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'elle... C'est ça, hein, Marie ? La question portée sur la diffusion maximale, c'est avis 4000, c'est ça le mot ? 4000, et puis les raisons pour lesquelles ça s'arrête au bout de 20 ans, c'est parce que l'information se trouve sur le web plutôt que... Ouais, c'est ça, voilà. Donc je pense que c'est ça
l'élément. Voilà.